C'est pas du vent. C'est pas du vent. Le magazine de l'environnement sur RFI.
C'est une idée géniale qui prend aujourd'hui une dimension exceptionnelle. Depuis plus de 40 ans, le musicien et bioacousticien américain Bernie Krause parcourt le monde pour enregistrer les sons de la nature, du milieu terrestre comme du milieu marin. 5000 heures de paysages sonores, le son sans l'image, un témoignage précieux de la richesse du vivant auquel la Fondation Cartier consacre une exposition à Paris depuis début juillet jusqu'à la fin de l'année. Trois invités avec nous pour en parler, Thomas Delamarre, commissaire de l'exposition, et deux scientifiques qui ont participé au catalogue de cette exposition, le biologiste Gilles Boeuf et la philosophe Vinciane Després. Thomas Delamarre, l'objectif de cette exposition, en quelques mots, c'est d'immerger le visiteur réellement dans l'univers sonore du monde animal. C'est une expérience sensorielle avant tout.
Oui, le travail de Bernie Krause est à la fois esthétique et scientifique, mais pour nous, tout le défi, c'était de transformer ce travail en une expérience effectivement sensorielle et esthétique dans notre lieu qui est consacré à l'art et à l'esthétique.
Alors, c'est une exposition qui est extrêmement belle parce que vous avez fait venir des artistes du monde entier pour illustrer justement les sons recueillis par Bernie Krause. Donc, il y a des photos, des dessins, du numérique aussi.
Oui, exactement. Alors, les œuvres qui sont présentées sont pas exactement des illustrations du travail de Bernie Krause, mais disons que l'approche de Bernie Krause et cette idée d'un grand orchestre des animaux a été vraiment la source d'inspiration pour toute l'exposition, y compris pour la partie plus visuelle. Et donc effectivement, les œuvres relaient cette idée de grand orchestre et de cohabitation, de coexistence des espèces, y compris des espèces animales avec l'espèce humaine.
Oui, parce que nous sommes, en tant que mammifères, des êtres visuels. On a besoin de voir, parce que vous auriez pu imaginer une exposition qu'avec du son, mais ça ne nous satisfait pas.
Voilà, on a cherché dans cette direction-là, et à un moment, on s'est dit qu'on avait besoin de cet aller-retour, en fait, en deux temps. C'est-à-dire que quand on est chez Bernie Krause, on est dans le son, on est vraiment dans l'expression du son. Et par contre, il y avait besoin dans l'exposition, à d'autres moments, de donner corps à ces visions auditives.
Oui, je dois dire que c'est très, très réussi. Alors, pour Bernie Krause, le grand orchestre animal dont nous faisons partie, hein, a trois composantes. La première, c'est la biophonie, comme il l'a expliqué récemment à Sophie Joubert, qu'il a reçue dans l'émission Autour de la question sur RFI.
La biophonie est un des trois composants du paysage sonore et c'est l'origine même du son. Elle se divise en trois catégories. La première, c'est la géophonie, qui sont les premiers sons qu'on a pu entendre sur Terre, qui est un son qui n'est pas biologique, c'est-à-dire par exemple le vent qui souffle dans les arbres, l'herbe, l'eau qui coule dans une source. Donc ce sont les premiers sons entendus sur Terre. Mais il faut un organisme pour pouvoir entendre ce son. Et c'est là que rentre la biophonie. La biophonie, ce sont tous les sons produits par des organismes vivants qui sont dans un habitat, que ce soit un habitat terrestre ou maritime. Et le troisième catégorie est l'anthropophonie. Et l'anthropophonie, c'est l'ensemble des bruits produits par l'être humain. Et il y a différentes sous-catégories dans cette même catégorie. La première étant le son qui est contrôlé, comme le langage, la musique, le théâtre. La deuxième sous-catégorie, bien évidemment, est le son que l'on appelle le bruit. Et ce sont tous les sons produits par des instruments ou par des mécaniques.
Donc, votre démarche à vous est de faire en sorte qu'on préserve justement cette biophonie et plutôt de mettre de côté tous les sons humains le plus possible.
Je dirais que vous avez raison en partie. Mon objectif principal est de protéger les sons de ces organismes vivants qui sont dans des habitats sains. Si un habitat est sain, lorsque l'on entend donc c'est la biophonie de cet habitat, on l'entend comme une narration de cet endroit, de ce paysage. Il vous explique dans quel état est cet habitat. Il vous donne aussi la sensation de cohésion entre toutes ces voix animales que l'on entend, ce qui est très important pour pouvoir comprendre à quel point cet habitat est sain. Moi, j'ai qualifié ça de niche acoustique parce qu'effectivement, chaque animal a son canal d'expression. C'est un peu comme des instruments dans un orchestre. orchestre. Et c'est pourquoi j'ai appelé ça le grand orchestre animal. Parce que lorsque les vocalises acoustiques s'expriment de la bonne façon, ils s'expriment de façon à ce que tout le monde les entende. C'est-à-dire qu'ils ne marchent pas les uns sur les pieds des autres. Et c'est une façon de s'exprimer tous dans la même acoustique.
Alors je vous propose maintenant, puisque ça nous a donné envie évidemment, d'écouter un paysage sonore justement enregistré par Bernie Krause. Nous sommes en Amazonie brésilienne au cœur de la forêt. Alors on a envie de fermer les yeux, d'écouter ce son pendant des heures et des heures. Gilles Boeuf, vous êtes professeur à l'université Pierre et Marie Curie. Vous êtes biologiste, ancien président du Muséum d'histoire naturelle, actuellement conseiller de Ségolène Royal, la ministre de l'écologie pour la biodiversité. Justement, alors ces sons que l'on entend interagissent entre eux. Et c'est ça qui démontre bien que le vivant qui nous entoure et dont nous faisons partie est en interaction permanente.
En permanence, totalement. En fait, quand la vie naît dans l'océan, il y a un peu moins de 4000 millions d'années, effectivement, ces cellules initiales ont commencé à inventer ce que tout à l'heure on appelait la biophonie. Tout à l'heure, d'ailleurs, quelqu'un a dit la géophonie, c'est le son avant le vivant, donc ça ne peut pas être le son avec les arbres qui bruissent. Hein. C'est du vent là où il n'y a pas d'arbres, la géophonie. La biophonie, c'est déjà effectivement avec les arbres. Donc, tout ceci joue en interaction. On se rend compte que chaque espèce qui s'exprime à un moment précis ne le fait pas n'importe comment. Elle a un droit dans un système de crier. Alors bien sûr, il y a des cris de lutte, de fuite, de terreur, de plaisir, pourquoi pas. Mais tout ceci se fait en accord avec ce qui se passe autour. Et c'est ce que Bernie Krause a démontré en montrant que sur toute la gamme de fréquences, tout est utilisé. Et en plus, ce qu'on découvre nous récemment biologistes, c'est que la nature a discriminé des espèces sur des sens qui nous paraissaient incroyables. Vous regardez deux toutes petites grenouilles, par exemple, du Cambodge. Elles sont exactement pareilles. Le point jaune, la tache bleue, le trait noir. Et quand vous les faites crier, ça n'a rien à voir. Et même, d'ailleurs, elles ne se reconnaissent pas entre elles.
Alors, est-ce que pour vous, en tant que biologiste, cette notion de son ouvre justement de nouveaux horizons ?
Complètement, parce que, vous savez, les perceptions de l'humain, tout à l'heure, vous disiez, vous parliez effectivement de la vue. Mais il y a des mammifères pour lesquels la vue n'est pas très importante. Hein. Pensez effectivement à une baleine, la vision est très limitée dans le milieu aquatique. Les sons sont extrêmement importants dans le milieu aquatique, ça peut être également des odeurs, bien entendu. Hein. Donc toute cette gamme des sens, hein, que l'humain a dit toujours, on a 5 sens, les animaux en sont beaucoup plus, sont importants. Et quand on ferme les yeux et qu'on écoute, les aveugles sont beaucoup mieux capables que nous d'expliquer ceci, toute la sensitivité, tout ce qui est l'émotion qu'on va ressentir avec des sons, que les humains ressentent avec la musique, puisqu'on a créé la musique, hein, sont essentiels. Et ces sons jouent un rôle fondamental dans les relations sociales. Trouver un partenaire amoureux, fuir un prédateur, trouver une proie, et finalement également avoir du plaisir. Et comme je dis souvent, c'est ça le plus important. Et les sons, comme les odeurs, et comme la vue, les images, jouent des rôles fondamentaux dans le vivant.
Vinciane Desprez, je rappelle que vous êtes chercheuse au département de philosophie de l'Université de Liège en Belgique. Et pour vous, cet orchestre animal, c'est une métaphore dont nous, les humains, nous devons tirer des leçons.
Alors oui, on peut considérer que c'est une métaphore de la façon de s'organiser politiquement, notamment. Et j'avais été très étonnée en lisant les écrits de Bernie Krause et en écoutant ce qu'il nous donne à entendre, de voir que les modèles, enfin de voir la contestation que ça pouvait apporter aux modèles politiques qu'on prétend depuis toujours trouver dans la nature, quand on observe la manière dont les naturalistes avaient décrit l'organisation des babouins ou des abeilles, etc. Ils parlaient de sociétés déjà toutes faites et hiérarchisées. Et dont les rouages assez immuables, d'une certaine manière, étaient un peu entraînés malgré eux. Et une fois qu'on lit Bernie Krause, on se rend compte qu'il y a dans la nature des véritables formes de vie collectives, interspécifiques, qui se font par des modes de composition, sur la mode de ce que Bruno Latour avait décrit comme la métaphore orchestrale. Et donc, ce qui était intéressant, c'est de voir que, d'une certaine manière, tous ces animaux qui ne se marchent pas sur les pieds, comme il le dit lui-même, qui composent ensemble, sans avoir nécessairement une composition qui soit de l'ordre d'une partition. Il n'y a pas de partition, c'est juste que la partition, elle vient après, elle est le produit de ce qui est en train d'arriver. Et de voir que toutes ces métaphores, d'une certaine manière, de composition, permettraient peut-être de repenser des formes politiques et notamment des formes d'organisation collective qui ne soient plus celles d'une hiérarchie d'un pouvoir qui viendrait par exemple d'en haut, mais simplement d'arrangements multiples entre les êtres qui apprennent à, d'une certaine manière, parler ou être en conversation, s'entendre avec les autres, même s'ils ne parlent pas le même langage.
Oui, c'est-à-dire que c'est finalement cet orchestre musical, l'incarnation, Gilles Boeuf, de ce que sont les écosystèmes, hein, c'est-à-dire que chacun a sa place et respecte la place de l'autre.
Oui, complètement. Et sans se chevaucher, tout à l'heure, comme on disait. Et c'est l'harmonie du système. Et l'humain crée en permanence de la désharmonie en détruisant ses écosystèmes, y compris, bien sûr, l'univers sonore. Et ça, disons qu'on perçoit ça depuis assez récemment. Les premiers travaux, c'est début 20e. On a des enregistrements possibles et on se rend compte que tout ça est beaucoup mieux organisé que ce qu'on croyait, avec des choses exceptionnelles. Par exemple, ces forêts du Costa Rica où on va décider une déforestation limitée en enlevant, par exemple, 10 arbres. Et où à la vue, ensuite, en passant sur la forêt en question, on ne voit aucune différence. Mais quand on écoute, ce n'est plus du tout la même chose. Donc c'est vrai que ce que j'aime beaucoup chez Bernie Krause, c'est quand il nous dit, en fait, l'humain est en train de perdre beaucoup de choses. Et pire que tout, on ne s'en rend même pas compte. Et c'est là que ces travaux sont pour moi exceptionnels, au plan d'abord éthique et également, bien sûr, au plan scientifique.
Oui, parce qu'il est retourné à plusieurs reprises prendre du son, enregistrer différents endroits, notamment dans des forêts, vous le disiez, au Costa Rica ou aux États-Unis, où à l'œil nu, on n'a pas forcément l'impression que le paysage a été détérioré. Et quand on écoute des sons, eh bien, la biodiversité est beaucoup moins présente.
Tout à fait. Par exemple, des cas exceptionnels où effectivement on a détruit un écosystème, on l'a pollué, on l'a dégradé, on l'a abîmé. Et puis, bien sûr, on se doute que c'est moins bien qu'avant, bien entendu. Et quand on écoute, il n'y a plus rien, il n'y a plus de bruit. Alors on se dit, ben voilà, c'est parce qu'on a entièrement détruit la faune. Souvent, c'est même pire que ça. Il reste encore des oiseaux, mais ils ne chantent plus.
Est-ce qu'on pourrait imaginer, par exemple, pour, je ne sais pas moi, vérifier l'impact d'une activité humaine, désormais, de mettre le son comme critère pour justement vérifier l'état de la biodiversité avant et après l'installation d'une mine ou d'une activité forestière ?
Tout à fait, ça peut faire partie des critères à regarder avant et après. Bien sûr, il y a la vision, les images, on fait des photos, on fait du cinéma. Mais lorsqu'on met les sons, il faudrait, pour moi, il manque encore les odeurs. Je pense que cette trilogie-là serait essentielle. Et on sous-estime parce qu'on ne se rend même plus compte de ce qui se passe. Et tout à l'heure, quand on parle de géophonie, c'est des premiers bruits dans l'univers et puis les bruits des systèmes physiques et chimiques. La biophonie, on est capable d'enregistrer des sons maintenant de cellules entre elles, donc ça va très très loin, avant d'imaginer le cri d'un jaguar, comme en parle Bernie Krause par exemple. Et puis l'anthropophonie est présente partout. Donc il y a des endroits, effectivement, aujourd'hui, on recherche la géophonie et la biophonie. Et c'est là que l'humain a tout désaccordé, le système ne fonctionne plus. Et c'est ça qui crée du mal-être. Vous vous rappelez ce groupe de rock australien il y a quelques années qui disait en fait, qui chantait avec terrible, chose terrible. Dès que je vois un brin d'herbe dans la ville, dans le béton, je l'écrase, je le brûle, je le détruis. Ça, c'est la plus fantastique image de mal-être que l'on puisse avoir. Donc, les sons, comme les images, ont des rôles fondamentaux dans les systèmes. On peut lire la pollution en écoutant.
Alors, cette prise de conscience est urgente puisque plus de la moitié des sons enregistrés par Bernie Krause durant ces 40 dernières années n'existent déjà plus. On en parle après avoir écouté Christophe Chassol qui, lui aussi, joue avec les sons de la nature. Ici, il est en Martinique en compagnie d'un ornithologue et notamment d'un siffleur des montagnes.
C'est pas du vent. Le magazine de l'environnement sur RFI.
C'est le siffleur des montagnes. Alors, figure-toi qu'un lundi après-midi, je je suis parti sous les bois. J'ai entendu quelque chose de merveilleux. C'est ça.
Vous écoutez C'est pas du vent sur RFI et vous venez d'entendre Pipornithologie de Christophe Chassol, une sorte aussi de partition de ce grand orchestre animal dont parle Bernie Krause, qui a enregistré depuis plus de 40 ans les sons du vivant. La Fondation Cartier à Paris lui consacre une exposition jusqu'à la fin de l'année. Cette exposition, on l'a dit, est une véritable expérience sensorielle pour prendre conscience de la richesse et de la fragilité de la nature dont nous faisons partie. Une exposition que vous devriez peut-être faire voyager en Russie, Thierry Delamarre. L'Institut français de Moscou présente d'ailleurs en ce moment une exposition photographique sur la nature sauvage de la réserve naturelle du Caucase de l'Ouest, une réserve qui est inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO car elle abrite une biodiversité exceptionnelle mais qui est malheureusement menacée surtout depuis les Jeux olympiques d'hiver qui se sont déroulés à Sotchi en 2014, comme l'a expliqué l'écologiste russe Andrei Djverblis à Muriel Pomponne.
C'est un site du patrimoine mondial, des espèces rarissimes qu'on ne trouve pas ailleurs. Cette biodiversité qui est maintenant vraiment menacée. On ronge littéralement le territoire avec les constructions, surtout des stations de ski, parce que c'est une région montagneuse. C'est purement question du fric, hein, la construction des stations de ski privées détenues par les deux grandes sociétés russes. Mais il y en a beaucoup d'autres, parce que c'est l'objet de convoitises. C'est une région formidable sur la côte. C'est un peu comme la côte d'Azur, mais plus riche en nature.
Quand vous adressez aux autorités, quelle réponse vous avez ?
Souvent, il n'y a pas de réponse. Par exemple, Greenpeace a essayé de contester cette décision de changement de loi à la Cour suprême. Mais la Cour suprême a tranché que ça va, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de violation, on peut construire.
Et qu'est-ce que disent les autorités locales ?
Les autorités locales, pour eux, c'est une aubaine. Économiquement, pour eux, c'est tout bénéfique.
Un exemple de ce qu'il ne faut pas faire ?
Par exemple, la rivière qui porte le nom compliqué Mzimta, qui approvisionne d'eau potable la côte, surtout la ville de Sotchi. Et justement, il y a les projets de construction près de sources de cette rivière, ce qui va entraver tout d'abord la vallée qui est le couloir naturel pour la migration des animaux entre la réserve et le reste du Caucase, ce qui est mal pour les animaux. Et l'autre conséquence, c'est la pollution possible de la rivière qui approvisionne la côte et les gens.
On parle beaucoup, on en a beaucoup parlé parce qu'il y avait les Jeux Olympiques, des menaces sur les réserves naturelles dans le Caucase, mais est-ce qu'il y a d'autres endroits en Russie où il y a des réserves naturelles, ou des sites, des parcs qui sont menacés ?
Il y a une dizaine de réserves naturelles classées patrimoine mondial par l'UNESCO. Plusieurs d'entre elles sont menacées par l'activité économique, comme par exemple au nord, il y a les forêts vierges de Komi qui sont menacées par l'activité des sociétés pétrolières. Mais il faut dire que la région de Sotchi, de Caucase, c'est le seul endroit où les palmiers poussent sur la côte. Donc c'était toujours l'endroit où beaucoup de gens voudraient bien vivre. Ici, il y a beaucoup trop de gens qui veulent prendre leur part de gâteau.
Et voilà, Thomas Delamarre, vous allez bientôt à Moscou, je crois. C'est peut-être l'occasion d'aller leur proposer l'exposition.
Mais pourquoi pas, oui. On est toujours très désireux de faire voyager nos expositions, on le fait souvent.
Oui, parce que Gilles Boeuf, on vient de l'entendre, hein, cet endroit du Caucase est sans doute un endroit où petit à petit, le risque que le silence s'installe va exister.
Oui, malheureusement, c'est pas le seul. C'est partout comme ça sur la planète. Alors, je n'aime pas trop, moi, quand on oppose directement développement économique et protection de la nature. Parce que il faut qu'on fasse avec 7,3 milliards d'humains, demain 9. La vraie question aujourd'hui, c'est que maintenant que l'on sait les dégâts que l'on fait, on peut plus dire qu'on ne savait pas, c'est terminé ça, il faut nous développer différemment. Et les sons peuvent être un excellent critère, comme vous l'évoquiez tout à l'heure, justement. Il faut qu'on arrive à trouver un compromis intelligent, sérieux, durable, entre cette nature qui nous entoure, dans laquelle nous sommes profondément insérés, et puis le bien-être de l'humanité. Le monsieur a parlé de fric tout à l'heure, il a raison. C'est pas un moteur de développement du tout. Il faut qu'on ait des considérations différentes, beaucoup plus de goût d'harmonie qu'on a perdu. Et avec le son, c'est absolument fondamental, c'est clair, c'est très très clair. Tout ce qui concerne aussi le respect, une attitude de partage beaucoup plus grande. Pour moi, c'est la seule condition. Alors on dit, on n'y parviendra pas. On n'a pas le choix. Je ne suis pas un catastrophiste. Ce qui est clair, c'est que si on ne change pas, si on continue avec cette économie débile, et je pèse mes mots, qui consiste à gagner de l'argent en détruisant la nature, y compris les sons, ou en la surexploitant, ça, c'est pas possible. Ça veut dire qu'on va bien, à un moment, basculer à autre chose. Et pour ça, il faut un profond changement de mentalité. Et surtout, surtout, il faut travailler pour l'ensemble des humains, pas que pour quelques-uns.
Vincent Desprez, vous travaillez, vous, depuis des années en tant que philosophe, donc avec du recul sur le rapport que l'homme entretient avec les animaux. Est-ce que vous sentez quand même une évolution ? Gilles expliquait tout à l'heure que nous avions progressé dans la découverte scientifique de la biodiversité. Est-ce que cet accroissement de la science, des connaissances, change un peu notre rapport aux animaux et inspire davantage de respect ?
Alors, il y a deux choses dans ce que vous dites sur lesquelles on pourrait démarrer. La première, c'est que les scientifiques ont fait un énorme travail pour nous rendre sensibles à la diversité, à la variation et à l'inventivité de la nature. Je veux dire par là que la manière dont on considérait les animaux il y a 30 ou 40 ans d'ici et la façon dont on les envisage aujourd'hui, la façon dont on découvre des tas de compétences dont on pensait qu'elles étaient exclusivement celles des humains, hein, la conscience de soi, l'inventivité, le fait de faire des choses pour rien, pour le plaisir, etc. Bon, mais ça, c'est un travail que les scientifiques ont fait et qui a formidablement modifié les perceptions et les sensibilités que les gens ont à l'égard des animaux. Il suffit de voir sur YouTube le nombre de gens qui prennent plaisir à diffuser et à regarder Des petits films où on voit des animaux faire des choses qui nous surprennent. Ça, c'est le premier point. Ensuite, j'ai remarqué quelque chose qui m'a profondément marqué depuis 2-3 ans. J'ai trouvé beaucoup d'annonces de colloques, de philosophes, d'écologistes, de gens préoccupés d'environnement qui parlaient de chorégraphie des rencontres. C'est un terme que je rencontrais souvent. Et quand j'allais voir les résumés de ces colloques, et la raison de l'utilisation du terme chorégraphie, c'est que les gens disaient, les organisateurs des colloques et les scientifiques ou les sciences humaines disaient, en fait, il nous faut de nouvelles sensibilités et trouver de nouvelles méthodes, de nouveaux modes, de nouveaux registres pour apprendre à ne plus simplement s'adresser aux humains, ne plus être simplement dans le langage, ne plus être simplement logocentré, comme on dit, mais trouver des nouvelles façons de s'accorder, de s'articuler, de s'agencer avec d'autres aides. La politique n'est plus rien qu'une affaire d'humains. Et le monde n'est pas seulement peuplé par des humains. Il nous faut apprendre à reprendre la conversation avec d'autres êtres. Et ça, je trouvais que c'était intéressant qu'ils utilisent, par exemple, le mot chorégraphie, c'est-à-dire qu'il fait à la fois référence à la gestuelle, au mouvement, c'est-à-dire à autre chose que le langage oral, et à la fois à quelque chose qui demande un support musical, ou en tout cas qui implique de la musique. Et il me semble que c'est peut-être quelque chose qui est en train de se transformer progressivement, localement, hein, évidemment. C'est des nouvelles façons, des nouvelles sensibilités que les gens essayent de cultiver. De nouveaux façons, je dirais presque d'essayer de trouver, d'inventer de nouvelles façons d'être au monde, en quelque sorte, de percevoir, etc. Je pense par exemple au livre de David Abraham qui célèbre la sensualité du rapport à la nature, je pense au livre de Bernie Crowe, je pense à d'autres livres de philosophes qui parlent par exemple de réintégrer le monde des sons, ne plus être seulement dans le monde visuel, qui est un monde finalement qui fige les choses. Enfin, il me semble que là, il y a des tas de petites choses qui sont en train d'advenir et qui annoncent quelque chose d'autre.
finalement, il faut que chacun apprenne à jouer sa partition. Thomas Delamarre, comment réagissent les visiteurs? Parce que là, on parle de ce qu'il faudrait que les gens comprennent, mais est-ce que les personnes qui vont voir cette exposition, justement, perçoivent tout ce dont on parle?
Oui, bah, quand j'écoutais Vinciane là, sur ce rapport sensuel au monde, il y a quelque chose que je retrouve d'un peu de l'expérience des visiteurs dans l'exposition. C'est un peu ce qu'on a cherché à faire. J'espère qu'on y est arrivé. Il y a, en tout cas, notamment dans le travail de Bernier Cros, je trouve qu'il y a vraiment cette idée-là d'un rapport très sensuel, parce que c'est très particulier d'entrer dans une pièce complètement fermée, très sombre. Et de se retrouver projeté, comme on l'a entendu tout à l'heure dans l'extrait, en Amazonie, ou en Alaska, ou en République centrafricaine, au milieu des animaux dits sauvages. Et c'est très particulier, et les gens sont assez fascinés, les enfants sont complètement hypnotisés même, j'ai l'impression. Et il y a vraiment, je trouve, cette idée de sensualité.
Et est-ce qu'on en ressort avec un peu plus d'humilité, en se disant finalement, le son que nous produisons, nous, n'est qu'un tout petit bout de ce grand orchestre musical qui est celui du monde?
Oui, c'était en tout cas l'idée de l'exposition, en tout cas d'ouvrir un petit espace dans l'esprit des visiteurs sur effectivement retrouver une posture un peu plus humble et puis faire un peu place aux animaux à nos côtés.
Eh bien, j'espère que ce sera bien perçu comme cela. Merci beaucoup à tous d'avoir participé à cette émission. Le Grand Orchestre Animal, une exposition à voir et surtout à écouter à la Fondation Cartier à Paris, c'est jusqu'à la fin de l'année. Et pour ceux qui n'ont pas cette chance, Thomas Delamarre, il y a aussi une expérience sonore à vivre sur Internet.
Oui, on a créé un site Internet avec Bernie Cros qui s'appelle legrandorchestredesanimaux.com qui est plus qu'un site Internet, c'est vraiment une expérience interactive où le visiteur du site internet peut être guidé par la voix de Bernie Cros au sein des territoires sonores et composer lui-même son propre orchestre animal.
Et je signale que Bernie Cros a publié un livre sur sa démarche, Le Grand Orchestre Animal. C'est publié chez Flammarion. Il y a aussi un très beau catalogue de cette exposition. Merci à tous d'avoir participé à cette émission. Merci à François Porcheron pour la réalisation et la mise en onde. Prenez soin de vous et des vôtres. On se retrouve samedi prochain. Même planète, même heure. Géopolitique.